s'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Je suis en direct. Alors, comme je suis en direct, j'en profite pour vous dire que nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Que ce soir, ce sont les Muses s'amusent, avec Christiane à la technique et moi-même, Nestor, au micro. Point d'invité, parce que ça aurait été un peu compliqué, parce que ce soir, nous parlons d'un livre étrange que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai trouvé chez un bouquiniste des Quais de Seine et dont l'auteur a un nom encore plus étrange pour nous autres occidentaux, car il s'appelle Mia Tarantint. Un Tan avec un H-T-H-T, un Tint. C'est un Birman. Et le livre s'appelle « Sur la route de Mandalay ». Histoire de gens ordinaires en Birmanie. Ça a été publié par les éditions Olizan à Genève. Et me direz-vous, de quoi s'agit-il ? Eh bien, j'espère que parmi les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire, il y a des gens qui ont lu, en français parce qu'il est disponible en français, en anglais parce que ça serait mieux, les merveilleux livres de Studs Terkel. Studs Terkel, c'est un journaliste de radio américain qui a fait des milliers d'interviews et qui en a transcrites quelques centaines pour faire une petite dizaine de livres absolument merveilleux qui donnent la parole à des tas d'Américains de tous les côtés et de tous les genres. C'est ce côté merveilleux de ces livres a inspiré beaucoup de monde, incidemment moi aussi. Et visiblement, je l'ignorais, eh bien, cet écrivain birman, qui est apparemment fort connu en Birmanie, et qui a écrit des dizaines et des, qui a fait des dizaines et des dizaines d'interviews de gens, évidemment, ordinaires en Birmanie. Alors, j'imagine que vous êtes comme moi, vous ne savez probablement pas grand-chose sur la Birmanie, si ce n'est qu'elle a souffert de dictatures plus ou moins abominables, qu'il y a eu un bref essai de démocratie, que cet essai de démocratie s'est relativement mal passé, et que donc la vie politique en Birmanie est soit inexistante, soit extrêmement brutale. Et ces récits que nous présentent, ces interviews que nous présente Mia Tantint, eh bien, montrent que la vie des gens ordinaires en Birmanie, elle n'est pas très facile non plus. Et nous allons voir que, eh bien, il y a beaucoup de détails pratiques qui nous montrent que la misère en Birmanie est particulièrement répandue. Et souvent, quand on lit ces interviews, on a l'impression de lire les romans picaresques espagnols du siècle d'or espagnol, où on voit que les pauvres, eh bien, font absolument feu de tout bois, essaient de se débrouiller comme ils peuvent pour manger, pour vivre. Et nous allons donc avoir beaucoup d'exemples de ceci. Alors, comme il était difficile de trouver un invité ou une invitée birmane, ce soir, c'est moi qui vais me charger de vous présenter ce livre et surtout de lire des extraits de ces extraordinaires interviews. Donc à nouveau, à chaque fois, des gens pas connus, des gens en règle générale pauvres. Et là, par exemple, la première interview, eh bien, Mia Tantint nous dit au départ, « Je l'ai rencontré dans un wagon déglingué, abandonné, sur une voie désaffectée de la ligne Mandalay Miyitkyina. C'était un homme grand et maigre, au teint foncé, qui parlait avec un accent de Haute-Birmanie. La veste qu'il portait était usée et sale, et son longi, le longi, c'est une espèce un peu comme un pareo, n'avait plus de couleur discernable. Au pied, il avait de vieilles tongs de caoutchouc. Il mâchait une chique de bétel dont il recrachait le jus rougeâtre tandis que nous parlions. Ses dents étaient complètement tachées. » Alors le début du récit, à nouveau, c'est que c'est pas facile pour sa famille. Il y a eu la guerre, il y a eu la guérilla. Et voici l'extrait que je vais vous lire. Dans la région, nous étions tous dans la même situation et personne ne pouvait aider personne. Chacun devait faire ce qu'il pouvait pour lui-même. Comme tout le monde, ma mère et moi, nous n'avions rien à manger et rien à boire. Nous avons trouvé le moyen de survivre d'igname bouillie et de semences de maïs. D'autres se préparaient ce que l'on a appelé la triple colle de pâte. C'était un mélange de grains de blé, de semences de maïs et de semences de pois cassés cuits ensemble. Les grains de blé amélioraient un peu le mélange. D'autres ne mangeaient que du maïs bouilli, et les plus chanceux mangeaient des grains de maïs avec du vieux riz. De toute manière, on était bien obligé de manger ce que l'on trouvait. Ce fut une année de misère et de famine, où j'ai compris ce que mourir de faim voulait réellement dire. Et nous n'avions plus de village ni de maison. Nous devions nous contenter de vivre dans une hutte en feuilles de palme au milieu de nos champs. Heureusement que nous n'étions que deux, ma mère et moi. De ce fait, nous n'avons pas été les plus malheureux. Mais heureusement, grâce à un ami plus tard, j'ai pu me débrouiller pour être employé aux ateliers des chemins de fer à Iwatong. Les salaires n'étaient pas très élevés, mais au moins y avait-il des bâtiments pour loger le personnel. Alors, nous avons eu une pièce où habiter. Les murs et les planchers étaient en bois, et le toit en tôle de zinc. Ah, ça m'a suffi, j'ai accepté le travail. Je suis peu à peu monté en grade, j'ai appris à réparer les moteurs, j'ai fait des stages pour devenir mécanicien professionnel. Quand j'étais aux ateliers, ma femme, j'ai passé quelques extraits, et ils étaient mariés entre-temps. Quand j'étais aux ateliers, ma femme fut de nouveau enceinte et elle se sentait mal. Elle a fini par donner naissance à des jumeaux siamois. Mais bien avant la naissance, nous avons dû l'envoyer à l'hôpital à Mandalay. Ah, ça coûtait très très cher. Alors, j'ai commencé à voler quelques pièces et des bricoles à l'atelier. Mais je me suis fait épingler. J'ai été renvoyé, poursuivi en justice, selon l'article 6.1 de la loi sur la protection des biens publics. Alors, pendant que j'étais en prison, ma famille se retrouvait sans aucun revenu. Se nourrir n'était pas leur problème principal, ils arrivaient à se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Ma fille s'est mise à vendre des sucettes de canne à sucre, des chics de bétel et des cigarettes au péage du pont d'Ava. Bon, c'était à peine suffisant pour qu'ils ne meurent pas de faim, il leur était très difficile de joindre les deux bouts, mais le pire, c'est qu'en perdant mon travail, eh bien, nous avons perdu notre logement. Quand les patrons ont vu dans quel état de pauvreté se sont retrouvés ma femme, ma mère et les enfants, ils ont eu pitié d'eux. Ils leur ont dit qu'ils pouvaient occuper un vieux wagon de marchandises qui se trouvait là. Un jour, le wagon a été remis sur rail et raccroché à un train. Alors, ma famille, ne sachant que faire, elle est simplement restée dans le wagon. Ils sont partis là où le wagon les emmenait. Ils sont montés à Kaolin et à Kafa, à Kotaumbo et à Chatin. Le wagon, là, est resté décroché 4 ou 5 mois d'affilée, et ma famille a continué à vivre dedans. Ils allaient vendre du bétel et des tchirouts, et quand c'était la saison, ils vendaient en plus des branches de tanaka et de l'eau. Alors, quand je suis sorti de prison, je ne savais pas où les trouver. J'ai fait la ligne dans tous les sens. Et finalement, je les ai retrouvés à un petit arrêt de campagne. Je suis resté à vivre avec eux. Et puis, le volume de transport a diminué, et le wagon a finalement été remisé sur cette voie de stockage, d'où il n'a plus bougé depuis 5 ans. Mon fils cadet est né dans ce wagon, et ma mère y est morte. Donc vous voyez, notre maison, c'est ce wagon, notre cadet. Il ne connaît rien d'autre. J'ai lu dans un livre qu'il suffit de voir la maison pour connaître la vie de quelqu'un. Bah, une maison, hein, c'est le récit de la naissance, du mariage et de la mort de quelqu'un. Eh ben, si ça c'est vrai, notre maison, c'est bien ce vieux wagon. Ma mère y est morte. Mon plus jeune fils y est né et je crois bien qu'on verra mes enfants s'y marier.
I'm a traveler. Led Zeppelin, Cachemire.
Évidemment, Cachemire, logique pour un livre sur la Birmanie qui n'est pas si loin du Cachemire, en tout cas, vu d'ici. Alors, un autre texte de ce merveilleux livre de Mia Tan Tint, Sur la route de Mandalay, histoire de gens ordinaires en Birmanie, publié aux éditions Horizon, qui sont des éditions suisses à Genève. Donc un autre texte, une interview d'une petite personne ordinaire en Birmanie. Et Mia Tan Tint présente cette interview de la manière suivante. Chaque matin, à l'heure d'affluence, à hauteur d'un petit débit de thé populeux, je la voyais s'affairer au milieu des files de voitures bloquées par les embouteillages. Elle avait le teint foncé, les yeux ronds sous des sourcils plantés haut et le nez droit. Les dents, d'une blancheur étincelante, éclairaient ses lèvres charnues. Ses cheveux lui arrivaient à hauteur d'épaule et elle était vêtue d'une chemise d'homme blanche et d'un longi, alors en Inde on dit longi, en Birmanie apparemment on dit longi, d'écolière vert, trop court et élimé. Elle avait des tongs aux pieds. Je lui donnais une quinzaine d'années, 16 au plus. Elle criait « Jasmin, jasmin, qui veut du jasmin ?» Tandis qu'elle se faufilait dans le trafic, des rangées de guirlandes de jasmin enfilaient à son bras gauche. Aussi l'ai-je surnommée Miss Jasmin, ce qui a semblé lui plaire. Parfois, je la rencontrais aussi au feu rouge de Meyeningon ou au carrefour de Ledan. Si elle m'apercevait, elle venait aussitôt vers ma voiture en disant « Mon oncle, vous ne voulez pas m'acheter quelques fleurs ?» Si le feu restait rouge un moment, je lui en achetais 5 ou 6 rangs. Voici ce qu'elle m'a raconté à propos d'elle-même. Alors, ce qu'elle dit, comme dans tant de textes, c'est une suite de malheurs assez abominables. Et en particulier, elle avait un papa qui faisait vivre la famille en tirant un cyclopousse. Hein, souvent, nous, on dit plutôt un pousse-pousse. Seulement, tirer un cyclopousse, c'est absolument épuisant. Et en plus, il faut se souvenir que tout ça, c'est quand même sous les tropiques. Et donc, le papa devient extrêmement malade, il ne peut plus du tout bouger. Donc, non seulement il ne peut plus gagner de l'argent, mais en plus, il faut lui acheter des médicaments. Et voici ce que commence à dire cette jeune fille. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'avais 10 ans. Que croyez-vous donc qu'une fille de 10 ans puisse faire ? Elle peut travailler comme servante ou vendre de la nourriture dans la rue. C'est à peu près tout. » J'avais pas envie de travailler chez des gens, j'ai préféré aller vendre des croquettes dans la rue. Oh, on ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que pour ça, il faudrait savoir exactement combien on va en vendre. Quand on vend tout, ça va. Mais s'il en reste, on y perd. Alors, on se limite, en ne prenant que ce que l'on croit être sûr de vendre. Et comme on ne gagne que 10 piastres par croquette, au bout du compte, bah, on n'a pas gagné beaucoup. On peut passer une journée entière à vendre, pour un profit de 10 piastres seulement. Et c'est fatigant. On ne cesse d'arpenter les rues, on finit par avoir mal aux jambes. Mais ce que je supporte le moins, c'est d'avoir mal à l'estomac. Parce que ça donne faim de marcher en long et en large, quand on sait qu'il n'y aura pas grand-chose à manger à la maison. Alors, la tentation, elle est grande, de manger les croquettes qu'on devrait vendre. Seulement, si on les mange, ben on ne gagne rien. Je me rappelle être parti une fois vendre mes croquettes dans la rue sans rien avoir dans l'estomac, parce qu'il n'y avait plus de riz à la maison. Alors j'avais tellement faim pendant que je marchais, que j'ai commencé à me servir. J'en ai tellement mangé qu'à la fin de la journée, ben, ma recette ne couvrait pas l'argent avancé à les acheter. De retour à la maison, ma mère m'a servi une bonne raclée. Alors après ça, j'ai arrêté de vendre de la nourriture pour vendre des fleurs. C'est qu'il y a beaucoup de jasmin près de chez nous à Ocalapa. Et ils ont été plantés de telle manière qu'il y a des fleurs tout au long de l'année. Les propriétaires vont les vendre aux marchands de fleurs de Rangoon. Nous allons directement sur place et nous payons 7 kyats, les 10 000 fleurs. Nous allons les cueillir dans la soirée quand elles ne sont pas encore ouvertes. Alors, de retour à la maison, nous les couvrons aussitôt d'une mousseline de coton humide et dès qu'elles commencent à s'ouvrir, on peut les enfiler en guirlande. Alors, avec 10 000 fleurs, on peut faire à peu près une centaine de guirlandes qu'on vend 20 ou 25 kyats piastres. Avec le coût en travail, qui n'est pas très élevé, et en fil de coton, on peut faire un profit de 10 kyats. Je ne les vends pas sur le marché. Je les vends aux gens qui viennent en voiture faire leurs courses. Ils les rapportent chez eux pour les offrir au Bouddha qui est sur leur hôtel domestique, ou bien ils les suspendent au rétroviseur intérieur de leur voiture. Je vends à peu près 300 guirlandes par jour, ce qui ne me fait pas un profit considérable pour avoir autant sillonné les rues. Sans compter que je dois m'acheter à déjeuner, et distribuer un peu d'argent à certaines personnes, pour qu'elles ne m'empêchent pas de travailler. J'ai beau manger des haricots et du riz frit avant de partir, je marche tellement depuis l'aube que dès 10h du matin, j'ai un creux. Et pour pouvoir tenir, je dois m'acheter une assiette de riz frit qui me coûte 8 kyats. Et nous n'avons pas le droit de vendre au feu, comme vous le savez. Si on vous repère, l'agent de la circulation vous arrête. Certains sont sympas et ferment les yeux. D'autres sont vraiment mauvais, hein. Et bon, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Il peut y avoir aussi des petites frappes devant les débits de thé. Pas tous les débits de thé, mais devant certains. Alors ils y vont à l'intimidation. Il faut leur donner de l'argent. Et encore, ils nous disent de déguerpir et qu'on n'a pas intérêt à réapparaître. Ce sont des types qui n'ont rien à voir avec la patronne de débits de thé ni avec la police. Ils opèrent comme ça pour leur propre compte. Et ils ont vu que nous, les vendeuses de fleurs, nous étions des proies faciles. Ah, c'est que c'est dangereux de vendre au feu de circulation, mon oncle. Certains conducteurs nous laissent un peu manœuvrer, mais d'autres filent déjà au feu orange, sans faire attention à nous. Et puis, il y a ceux qui font exprès de se coller à la voiture devant, juste pour nous empêcher de passer. Un jour, il y avait avec moi une autre fille qui vendait, elle aussi, des guirlandes. Elle s'appelait Mahatan Hittai. Elle avait un acheteur. Alors, elle se met sur le côté de sa voiture devant la portière du conducteur pour lui donner ses fleurs, quand un énorme camion est arrivé à pleine vitesse. Elle s'est fait faucher. Il l'a écrasée. Elle est morte sur le coup. Je vendais de l'autre côté de la route et c'était horrible à voir. Ses guirlandes de fleurs étaient éparpillées dans une mare de sang. J'ai été tellement bouleversé que pendant des mois, je n'ai pas pu retourner à cet endroit-là. La nuit, en rêve, je voyais ces guirlandes de jasmin rougies noyées dans le sang et je me réveillais en hurlant. Mais je ne pouvais pas continuer à éviter les feux de circulation. C'est vraiment l'endroit où il faut vendre du jasmin avec tout ce trafic qui s'arrête. Si on est là assez tôt et avec un peu de chance, on peut même arriver à tout vendre au même endroit et on n'a plus à marcher pour le restant de la journée. J'ai donc fini par y retourner. Si on vend devant un débit de thé, on n'a pas à se soucier des voitures. Seulement, en revanche, on peut avoir affaire à des hommes pas très recommandables. Oui, mon oncle, vous savez, certains hommes sont mauvais. Pour un kiat de fleurs, ils en profitent pour vous toucher et vous dire des choses dégoûtantes. Et si on ne reste pas souriante et légère, ils peuvent devenir franchement méchants. Si je n'ai pas de grands rêves, je souhaite surtout que mon petit frère et ma petite sœur puissent terminer leur scolarité. À part ça, j'aimerais quand même une chose. C'est avoir un lopin de terre où je ferais pousser du jasmin à Ocalapa, sinon quelque part ailleurs. Hein. Si j'avais un jardin, je ferais pousser du jasmin pour toutes les saisons. Je ferais la vente sur place. Vous n'avez qu'à voir comment les marchands de fleurs sont à l'aise. Et je pourrais donner du travail à des enfants comme moi qui ne peuvent pas aller à l'école. Et une chose encore, je ne veux plus jamais voir de ma vie une Mahatan Hittai serrant dans une main une guirlande de jasmin rouge de sang. Je ne veux plus voir que du jasmin blanc et parfumé.
Your life, only one hour of this pure. sa pyar bina is duniya mein aaye ho to ek dooje se Jina kaisa is duniya
The Face of Love, c'est évidemment Nusrat Fateh Ali Khan et Eddie Vedder, et cet extrait de la bande originale du film Dead Man Walking.
Et Nusrat Fateh Ali Khan, c'est vraiment très très bien. C'est une musique que j'aime beaucoup personnellement. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est toujours Les Muses s'amusent. Et nous sommes toujours avec l'excellent livre de Mia Tan Tint, Sur la route de Mandalay, histoire de gens ordinaires en Birmanie, publié aux éditions Horizon à Genève. Et parmi tous les textes que présentent, toutes les interviews que présente cet excellent livre, la toute première, eh bien, ça s'intitule « Le diseur de bonne aventure ». Et il y a quelque chose de fort amusant, et Mia Tan Tint a raison de commencer l'interview avec ça. Le gars, le diseur de bonne aventure, interpelle notre écrivain qui fait l'interview, et ça commence comme ça. Alors comme ça, vous êtes écrivain ? Oh, je m'en étais un peu douté à vous voir. Les lunettes, les cheveux, ni longs ni courts, le parapluie, la veste aussi, plutôt fatiguée. Et puis, votre sac en bandoulière, facile de savoir ce qu'il y a dedans. Il y a des livres, avec des feuilles intercalées entre les pages, gribouillées à la main, un brouillon pour un article probablement, ou pour votre prochain roman. Et vous tenez, bien sûr, cet inévitable tchiroud, peut-être que c'est les bidis indiens, on n'est pas sûr. Vous êtes donc peut-être écrivain, mais vous n'avez rien d'un écrivain à succès. À mon avis, vous devez pas être bien célèbre. Ou, si vous, malgré les apparences, vous êtes connu, eh ben, vous êtes un de ces écrivains réalistes qui se complaisent à écrire sur la vie telle qu'elle est. Bon, on voit que ce diseur de bonne aventure, il avait vraiment l'œil. Alors, bien entendu, comme si souvent dans ses récits, il lui arrive tout un tas de choses, pas très agréables, et à un moment, je me suis fait pincer pour vol à l'usine, et j'ai été condamné en vertu de l'article 6.1 sur la protection des biens publics. Oh, ça devait finir par arriver avec toutes ces balles de coton que je devais transporter d'un endroit à un autre et qui n'arrivaient pas toujours à destination. Bref, je suis allé en prison. Et là, j'ai fait la connaissance d'un homme d'affaires très riche. Il était derrière les verrous sous le coup du même article de loi que moi. Il possédait une compagnie de transport à longue distance. Il avait commencé tout jeune comme simple aide-mécanicien et il avait peu à peu fait son chemin. Il m'a offert un job, celui d'assistant d'un de ses chauffeurs de camion. Me voilà donc sur les routes. Seulement voilà, il y avait un gang qui opérait sur la route de Mandalay entre Yamethine et Piaoubwe. Là où on est forcé de rouler lentement. Les bandits faisaient le guet, prenaient d'assaut les véhicules et les dévalisaient. Un jour, ça a été notre tour. Nous nous sommes fait attaquer et délester d'une bonne partie du chargement. Le patron a cru que c'était nous, le chauffeur et moi, qui avions fait le coup. Il nous a fichu à la porte. Alors, de nouveau sans travail fixe, je suis retourné au monastère. Alors souvent, les pauvres en Birmanie se réfugient temporairement dans les monastères. où j'ai recommencé à faire toutes sortes de petites choses pour subsister, comme m'occuper des jardins, faire la plonge, n'importe quoi. Maintenant, vous voudriez bien savoir comment j'en suis arrivé à faire de l'astrologie. Ben, c'est très simple. Au monastère, il y avait un moine fort versé dans cet art et qui jouissait d'une certaine réputation. Peu à peu, lorsqu'il en avait le temps, il m'en a enseigné les bases. Alors il m'a appris à calculer la position des planètes et des maisons du ciel dans le zodiaque et à partir de là, comment établir un thème astral. Et quand les gens venaient au monastère le consulter, je prenais note de tout ce que leur disait le moine. Cet apprentissage terminé, j'ai commencé à donner moi-même des consultations à l'occasion des fêtes religieuses quand il y avait foule. J'allais m'installer sous les arbres aux pagodes de Mogaong, de Melamu, de Kiaikalo, de Botataog et de Kiaokauk. Oh, c'était pas déplaisant, sans compter qu'avec tout ce monde, j'avais toujours des clients, je gagnais pas mal d'argent. C'est que ma clientèle, ce sont les gens qui voyagent souvent en bus ou en camion. Bon, des gens pauvres qui peuvent pas payer plus de kiat, la séance. À part ça aussi, des gens de toutes sortes, des conducteurs de rickshaw, des drogués, des couples à la dérive, des femmes qui se rendent au marché le panier sur la tête, des gens affligés de peine de cœur ou qui viennent de se séparer, ou des gens qui tout simplement n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et les étudiants qui veulent savoir s'ils vont réussir leurs examens, les gens qui désirent retrouver un objet perdu, et vous autres les écrivains, franchement, vous devriez passer une journée avec moi, à écouter ce qu'on me raconte et les questions qu'on me pose. Eh, les carnets d'un astrologue, ça pourrait faire un bon livre. C'est qu'il faut une bonne dose de finesse pour être astrologue. Il faut pouvoir saisir les gens d'un coup d'œil. Et juger s'ils viennent vous consulter parce qu'ils ont des ennuis ou parce qu'ils sont à un tournant de leur vie. Si c'est parce qu'ils hésitent à prendre une décision ou juste pour le plaisir de s'entendre raconter leur destin. Ceux qui attendent que quelque chose leur arrive, ben, il faut aller dans le sens de leur attente. Ceux qui sont déprimés, il faut leur remonter le moral. Les perplexes qui ont du mal à savoir sur quel pied danser, il faut leur offrir des conseils. Les rigolos, il faut les amuser. Tout l'art consiste à saisir la nature du client et de sa demande. Comme vous l'avez dit à l'instant, il faut être... quel est le mot que vous avez utilisé? Psychothérapeute. Je sais ce que c'est qu'un psychothérapeute. J'ai lu des articles à ce sujet. Ce sont des gens formés à soigner les maladies mentales en Occident. Bah, chez nous, en Birmanie, comme on a les astrologues pour ça, on n'a pas besoin d'eux. Il faut pouvoir sentir ce que les clients ressentent, être bienveillant, faire preuve de bonté, montrer de la compassion, de manière à ce que les gens repartent plus heureux que quand ils sont venus vers vous. Le savoir, ça ne suffit pas, c'est la bonté qui est indispensable. Et moi, vous dites ? Oh, moi, j'ai des espérances. Pour le moment, j'exerce mon métier dehors, à l'ombre des arbres, mais je compte bien avoir un jour... une maison avec une plaque à mon nom et un téléphone. Et même faire de la publicité dans les magazines. Mais vous savez, prédire l'avenir, c'est un sujet dont on ne fera jamais le tour parce que il traite de la vie des gens. Et il faut quand même d'abord savoir satisfaire son public. Et là, on est un peu dans la même situation que vous les écrivains. Pourriez-vous avoir du succès sans tenir compte de vos lecteurs en faisant de la littérature juste pour faire... pour l'art de faire de la littérature. Comme le dit l'écrivain Ang Min, il faut parfois savoir faire quelques entorses à la vérité pour se gagner une honnête réputation. Et à bien y penser, il y a des ressemblances entre écrire et prédire l'avenir. Si ce que dit un auteur satisfait le public le lira. Sinon, il ira voir ailleurs. Ben, c'est pareil en astrologie. Si les clients sont contents de ce qu'on leur dit... ils reviendront consulter l'astrologue. Sinon, adieu, personne ne les forcera à revenir vous voir. Et vous autres, les écrivains, vous ne pouvez pas passer votre temps à écrire des choses géniales et difficiles. Il faut bien aussi que vous écriviez des bêtises de temps en temps. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi vous devriez vous considérer d'essence supérieure à nous, les diseurs de bonne aventure. On est bien tous dans la même galère. Vous n'avez plus de questions ? Mais, vous savez, si vous avez un blocage d'écriture... vous saurez à qui vous adresser si vous voulez un conseil, et vous en faites pas. Je vous ferai la consultation gratis.
A series of deceptive exits rows of light shutting off, like rain being swallowed back up into gray clouds. I hate going for a walk and finding myself in circles, unwinding into unwinding, backwards into what binds. Every day trying to exceed what bounds don't exist, adding exponents where after point outsider begins, waiting for the year to end, other times my life to stop, in need of another way to describe what I'm sick of describing, so I describe it differently. It's been a long year, une longue année.
Movement yielding, sweat and shaking waves ripple downward like my blood flow oscillating, empty minded, full of my own hell that I'm craving, yeah. Past life, bury all as if it had been wiped out. Past life chosen, I'm just looking for a way out. Don't know how to talk now, okay now I black out. Faces fleeting, careless, morphed to nothing but a faint sound.
C'était une longue année. Une longue année, c'est donc Anamas et River Dog. Et pourquoi ce morceau? Parce que c'est un très beau morceau. Je trouvais que ça collait bien avec le texte précédent. Mais surtout, voilà, c'est un jeune groupe qui est très, très prometteur, qui font des sortes de symphonies de son. Et donc, ils se produisent le 8 juin en concert à partir de 20h30 à la Dynamo de Pantin.
Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Vous êtes toujours dans Les Muses s'amusent, et nous continuons à lire des textes tirés du livre de l'écrivain birman Mia Than Tint, Sur la route de Mandalay, histoire de gens ordinaires en Birmanie, publié aux éditions Horizan à Genève. Et le texte que je vais vous lire maintenant, c'est un texte sur quelqu'un qui a une carrière un petit peu surprenante dans le contexte français, puisque c'est quelqu'un qui est d'abord receveur dans les bus et qui devient ensuite pickpocket. Alors évidemment, on imagine bien que la sécurité de l'emploi que connaissent fort heureusement les employés de la RATP, c'est pas exactement ce dont bénéficient les employés des compagnies de bus birmanes. On verra ça demain, pendant la manif et la grève. N'oublions pas, demain, grande manif contre l'obstination lamentable et scandaleuse du gouvernement pour priver les gens d'années de retraite. Allez, on commence la lecture de ce texte. Je suis de Rangoon, au Kalapa. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Mon père était conducteur de bus pour une compagnie privée. Il avait commencé comme receveur et puis il s'est débrouillé pour devenir chauffeur. À l'époque, les bus n'avaient pas de numéro. Ils avaient des symboles. Ceux qui faisaient la ligne de Kemendin à Pazundong avaient une langoustine. Les bus de Tamway avaient un bateau, tandis que ceux d'Inzain avaient des ailes et ceux de Mingaladon un avion. Les bus de Kaba étaient eux reconnaissables à leur éléphant, ceux de la ligne de Htao Kiant à leur rhinocéros, et ceux de Tingangyun et de Baoktao à une pleine lune et à un croissant de lune. Et puis il y avait encore les bus qui faisaient la navette le long de Boyoke Street, ceux-là avaient un train, et puis ceux qui allaient à l'université arboraient un dragon, et ainsi de suite. Il y en avait encore bien d'autres. Je ne pouvais pas, moi, dès le début, être engagé comme receveur. Alors j'ai dit au patron que je ferais ce qui leur conviendrait. Ils m'ont embauché comme receveur adjoint. 2 ans plus tard, un des receveurs s'est tué en tombant du bus et j'ai pu le remplacer. Est-ce que j'empochais un peu d'argent ? Oh ben, après être devenu receveur, ça m'est arrivé. Je pouvais me faire un supplément en oubliant de donner leur titre de transport à des passagers qui venaient de payer. Vous savez comment ça marche, hein ? Parfois, quand le bus était bondé, j'oubliais en toute sincérité. Puis, d'autres fois, l'oubli était délibéré. Quant aux passagers, certains ne se souciaient pas de demander leur ticket parce qu'ils étaient trop fatigués. Soit ils pensaient qu'à rentrer chez eux, soit la seule chose qui leur importait, c'était de se précipiter sur une place assise. Et moi, je ne me précipitais pas non plus pour leur mettre un ticket dans les mains. Vous voulez savoir comment je suis devenu pickpocket ? Eh bien, je vais vous le raconter. J'ai d'abord appris le savoir-faire sur les bus, parce que les pickpockets opèrent souvent dans les transports en commun. J'en avais repéré quelques-uns sans pouvoir faire grand-chose, parce qu'il aurait fallu les attraper sur le fait. Si j'envoyais un monté, je me contentais de mettre en garde les passagers en disant du genre « Faites attention à vos affaires, gardez bien vos affaires avec vous, éloignez-vous des portes, serrez à l'intérieur. » Parce que les pickpockets restent toujours près des portes pour pouvoir filer plus facilement. Certains passagers ne comprenaient rien et s'obstinaient à rester près de la porte. Ils se plaignaient même si j'essayais de les faire bouger. Alors je pouvais pas leur dire ouvertement qu'ils étaient à côté d'un pickpocket parce que je l'ai fait une fois. Je me suis retrouvé la cuisse tailladée à coups de vieille lame de rasoir. Et avec tout un gang sur le dos qui me sifflait dans les oreilles que j'avais intérêt à m'occuper de mes oignons si je voulais continuer à respirer et travailler un jour de plus. Alors, comment est-ce que je suis devenu moi-même pickpocket ? Bon, mon père, il est mort du diabète pendant que je travaillais comme receveur. Il avait travaillé dans les bus juste de l'âge de 20 ans jusque vers les 60 ans, je peux vous dire. C'était une vie stressante. Au volant toute la journée, il ne pouvait pas bouger de son siège. À la saison chaude, il était en pleine chaleur à l'avant à côté d'un moteur bouillant. Il rentrait le soir très fatigué, il s'est mis à boire et pour finir, il est devenu diabétique. C'est comme les chevaux qui doivent tirer une carriole toute la journée pendant la saison chaude. Ils meurent de constipation ou de maladie des reins. C'est ce qui arrivait à mon père à conduire tous les jours, par tous les temps. Mais un jour, j'étais dans un restaurant avec, justement, comme voisin, ces pickpockets. Alors, il y a leur chef qui a vu que j'étais en train de régler l'addition et il m'a dit « Mon frère, pourquoi ne restes-tu pas encore un petit moment et ne viens-tu pas prendre un verre avec nous ?» Ils étaient 3 et moi j'étais seul. Alors, je me suis dit « Bon, il était plus sage de ne pas accepter l'invitation. » J'ai répondu « Oh, bien aimable à vous, mais j'ai des choses à faire chez moi, je dois rentrer. » Oui, non, mais... Le chef, c'était pas un homme à qui on refuse une invitation, il a insisté. Il m'a semblé difficile de trouver une bonne excuse. Bon, après tout, j'avais envie d'un autre verre. Alors, je suis donc allé m'asseoir à leur table, et tout en buvant, ils me racontaient tout ce qu'ils faisaient pour vivre. Ils ont ajouté qu'ils avaient besoin de mon aide. Alors, j'étais déjà un peu saoul, mais j'ai quand même réussi à leur dire que je ne savais pas ce qu'ils attendaient de moi, et que je ne pourrais certainement pas les aider, parce que je n'étais pas un pickpocket. Ils m'ont répondu que ça n'avait pas d'importance. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que je fasse comme si je ne voyais rien et ne savais rien quand ils montaient dans le bus. Alors en plus, ces jours-ci, les recettes étaient maigres pour eux parce que la police avait monté une campagne contre les voleurs à la tire. C'était à cause de ça qu'ils avaient besoin de mon aide. Alors d'abord, j'ai refusé leur proposition, mais bon, ils ont insisté, et puis en plus, j'étais de plus en plus saoul, alors j'ai fini par accepter. C'est comme ça que je suis passé dans le camp des voleurs. Alors au bout de quelques temps, la compagnie de bus a compris que j'étais de mèche avec les pickpockets. Et j'ai été renvoyé. Il ne me restait plus qu'à m'intégrer au gang. Alors j'ai appris l'argot qu'ils utilisaient. C'était un argot qui a été repris maintenant par les gamins de la rue. Cochon, c'est l'argent. On dit « j'ai plus de cochon » ou au contraire « j'ai beaucoup de cochon ». La main, ça veut dire une montre. Daiao, c'est un longji. Les pantoufles, c'est des chaussures. La flottante, c'est la veste. Le mou, oulala, le mou, c'est un collier en or. Le rouet, c'est un briquet. Et le télescope, c'est des lunettes. Et puis, parfois, j'ai fait des coups. Oh, j'ai fait des beaux coups. Tenez, je vais vous raconter. Un jour, avec un ami, je suis monté sur le ferry de Bassein. Nous nous sommes installés pour la nuit sur le pont, dans un coin, où nous avions pour voisins un couple à moitié chinois avec leurs enfants. L'homme était commerçant et d'apparence prospère. Ils avaient de l'argent avec eux. Ils le transportaient dans un sac de toile que le chinois tenait serré contre lui sans jamais le lâcher. Alors j'ai décidé que j'allais m'en occuper. Je n'ai pas quitté son sac des yeux, mais il ne s'en est pas séparé une minute. Alors, pendant que le ferry passait le canal de Twente, l'homme terminait son dîner, il a ensuite déroulé une natte et installé des oreillers pour dormir. Il était corpulent, alors je me suis dit qu'il était du genre à dormir profondément. J'ai continué à le surveiller, et juste avant l'escale de Maoubin, il a fini par s'endormir avec sa femme et le reste de la famille. Oui, mais il avait dissimulé le sac sous son oreiller. Il était trop tôt pour agir, qu'elle n'était probablement pas encore dans un sommeil bien profond. Il était à côté de moi, presque me toucher. Et sa femme était allongée de l'autre côté. Ils avaient les enfants entre eux. Je me suis retourné, je lui ai donné un petit coup de pied, comme par mégarde dans mon sommeil. Il s'est réveillé immédiatement. J'avais donc raison, il était encore dans un sommeil léger. Je l'ai laissé se rendormir, en faisant toujours semblant d'être moi-même complètement endormi. Quand nous avons approché de Wakema, il était cette fois plongé dans un profond sommeil. Alors, par précaution, j'ai enfoncé un doigt dans sa chair. Il a continué à ronfler bruyamment sans se réveiller. Ouh ! Pour plus de précaution, je lui ai donné un coup de genou assez sec dans le postérieur. Il a ronflé de plus belle, sans la moindre réaction. J'ai fait glisser le sac avec l'argent de dessous l'oreiller. Ce fut facile, plus facile que de ramasser mon propre sac. Tout allait pour le mieux. J'avais le sac en main au moment même où le bateau est arrivé à quai à Wakema. Nous nous sommes glissés hors du bateau, mon complice et moi, et nous sommes retournés en Rangoon comme prévu, sur un ferry d'une compagnie privée. Et nous avons découvert que nous avions mis la main sur 10 000 kyats. Pas un mauvais coup, n'est-ce pas? Il y avait aussi des papiers dans le sac, y compris le permis de séjour du chinois, la carte d'identité de sa femme. Ce genre de papiers ne nous était d'aucune utilité et nous les avons renvoyés par la poste à nos pigeons. C'est que nous avions une certaine éthique. Restituer ces papiers faisait partie de nos principes. Vous savez, dans ce métier, on n'a besoin de rien. Rien d'autre qu'une paire d'yeux perçants, encore qu'il puisse être utile d'avoir des ongles un peu longs, et puis, oh si, un bout de lame de rasoir. Les ongles sont utiles pour extraire certains objets des poches, les stylos par exemple. La lame de rasoir peut servir à découper la poche intérieure d'une veste ou d'un sac à main. Pour cela, on peut aussi aiguiser la tranche d'une pièce de 5 piastres. Ou la pièce de 50 piastres qui est très dure et tient bien en main, soigneusement aiguisée, elle peut devenir assez tranchante pour couper la lanière d'un sac de cuir. Ah, ça fait 7 ans que je joue à ça. Parfois je suis en fond, parfois sans le rond. Un peu comme les joues d'un clarinettiste, tantôt gonflé, tantôt creusé. Je me suis fait pincer 2 fois, là c'est la 3e. Tout comme j'ai été marié 2 fois, maintenant j'en suis à la 3e. Alors à chaque fois que j'étais en prison, mes femmes m'ont quitté. Je ne devrais pas trop compter sur la dernière pour m'attendre. Elle ne m'a d'ailleurs pas rendu visite depuis 3 semaines. Oh, ça serait pas étonnant qu'elle se soit trouvée un autre homme dans ce milieu. Il n'y a pas que les objets volés qui changent de main. Et alors, c'est la vie.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
C'était évidemment le poinçonneur de lilas par Serge Gainsbourg.
Et nous sommes évidemment sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Sans Dieu, sans maître ni publicité, c'est les muses s'amusent. Nous parlons du livre de l'écrivain birman Mia Than Tint, Sur la route de Mandalay, histoire de gens ordinaires en Birmanie, publié aux éditions Horizon. Et le texte suivant, eh bien, c'est un texte sur un batelier. Évidemment, dans ces pays, les rivières sont souvent encore parfaitement sauvages, ça n'est pas encore tout contrôlé, bâti, etc. Et donc, fatalement, il y a beaucoup de bateliers. Et ça commence maintenant. Je travaille sur les bateaux depuis que je suis gamin. Mes parents remontaient tous les ans à Maokadao pour aller couper du bois et ramasser des bambous. Quand le niveau de la Chinwin baissait, il redescendait à Sadon, mais il n'y restait que très peu de temps. J'ai grandi à Maokadao. C'est là que j'ai appris à nager. Nous vivions sur le sampan, et à l'âge de 4 ou 5 ans, je m'amusais sur le bateau ou à nager dans la rivière. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai appris à manier la perche de bambou et à diriger le bateau. Mais avant d'apprendre à manier la perche, j'ai d'abord appris à faire la cuisine à bord, à m'occuper des cordages et à amarrer le sampan à la rive avec une corde. Après cela, j'ai appris à manier la perche et à reconnaître le chenal entre les hauts fonds et les bancs de sable. Si le bateau s'échoue, on utilise la perche pour le dégager. La progression des bateaux dépend de l'énergie humaine et du vent. S'il n'y a pas de vent, on utilise la perche pour pousser ou une corde pour tirer. Avec 3 ou 400 sacs de riz sur un sampan, il faut faire les deux. Le haler et le pousser avec une perche. Pour le halage, on marche sur la berge en tirant jusqu'à ce que l'on rencontre une falaise ou une pente abrupte et qu'on ne puisse plus progresser. On saute alors à l'eau pour regagner l'embarcation et tout le monde se met à pousser à la perche. Pousser à la perche, ça veut dire coincer un bambou long et robuste au creux de son épaule et pousser avec tout le poids de son corps. C'est pour ça que la plupart des bateliers ont le creux de l'épaule aussi calleux que la peau du dos d'un buffle. Parfois, cette callosité s'infecte et il en sort du pus et du sang. La Chinwin est pleine de hauts fonds, de bancs de sable et de tourbillons. Il y a différents types de tourbillons, certains sont ascendants, d'autres aspirent vers le bas. Les bateaux peuvent être jetés vers l'extérieur ou au contraire être entraînés vers le centre. Les tourbillons qui aspirent les bateaux font tournoyer toutes sortes d'épaves et de rebuts qui ont déjà été happés dans leur champ. Ceux-là sont les plus redoutables. Il faut faire très attention à ne pas s'y faire prendre. Vous me demandez comment j'ai appris à tenir le gouvernail ? On ne me l'a pas vraiment appris, même mon père ne me l'a pas expliqué. C'est une des choses qui s'apprennent avec l'expérience, et il faut surtout connaître la rivière et ses courants. Il faut être capable de garder le cap. Si on ne connaît pas la rivière, on ne peut pas s'en sortir. Il faut savoir où le fond est peu profond, où sont les rochers, où sont les tourbillons. Il faut connaître la profondeur des fonds, il faut savoir repérer ce qu'on appelle les boîtes. Ce sont les endroits où l'eau bouillonne. Ce ne sont pas des tourbillons. Ce sont des endroits où il faut se méfier de la profondeur de l'eau. quand le bouillonnement est lâche, avec une certaine ampleur, c'est qu'il y a beaucoup de fond. Et au contraire, si on a un petit bouillonnement ciré, ben c'est qu'à cet endroit, la rivière est peu profonde. À vue de nez, on estime que la profondeur est le triple de la largeur de ces bouillons. Tout ça, c'est la base essentielle de ce qu'il faut pour savoir des courants, pour pouvoir naviguer sur cette rivière et devenir batelier. Le reste a beaucoup moins d'importance. Alors donc, j'ai commencé comme batelier. Par conséquent, dans ce temps-là, j'avais tout le temps une épaule tuméfiée. Puis, dès qu'ils sont arrivés dans la région, je suis allé travailler sur les bateaux à moteur. Bon, j'ai d'abord été engagé comme simple manœuvre, je m'occupais du cordage ou de mettre la passerelle, j'ai été cuisinier, même débardeur. Enfin, j'ai été employé à toutes les tâches. Et puis j'ai été mis à la perche, et quelquefois je remplaçais le barreur s'il était occupé à autre chose. Comme je connaissais la navigation fluviale, il m'a parlé d'un stage à Mandalay. Il m'a suggéré de le suivre pour avoir le permis bateau. Par la suite, le propriétaire d'un bateau de Moniwa s'est pris de sympathie pour moi. Il me faisait davantage confiance qu'à n'importe lequel de ses bosco. Il m'a demandé de m'occuper de ses 4 ou 5 bateaux à moteur. Je savais parer en toute sécurité et prendre les décisions nécessaires quant au chargement à bord, ce qui lui évitait d'avoir à en discuter avec les clients. Oh, puis je faisais de la publicité pour le bateau et je supervisais le chargement de la cargaison comme s'il s'agissait de ma marchandise personnelle. Quel est mon âge ? Eh, 58 ans. Les Bosco arrêtent de travailler à 60 ans, comme les fonctionnaires. Mais nous, eh bien c'est parce que quand on n'a plus une bonne vue, c'est pas prudent de naviguer la nuit. À la moindre erreur, le bateau peut aller se fracasser contre une falaise ou s'échouer sur un banc de sable. J'ai 4 fils, ça y a. L'un d'eux fait un stage de navigation pour avoir son permis, comme son père. Un autre fait des études de pédagogie. Les 2 plus jeunes vont encore à l'école. Je sais pas ce qu'ils feront quand ils auront terminé, car pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est pas travailler du tout. Le plus jeune ne s'intéresse qu'à sa guitare. J'ai aucune idée de ce qui va devenir. Oh, je suis encore en forme pour mon âge. Eh, bientôt 60 ans. Quand j'arrêterai ce travail, je voudrais m'acheter mon propre bateau à moteur. Pas quelque chose aussi grand que celui-là. Bien entendu, un petit bateau de passagers avec un moteur hors bord pour faire les trajets courts. Pardon ? Qu'est-ce qui bouge là-bas sur la rive ? Ah ben ça, c'est un groupe de singes. Il y en a beaucoup des 2 côtés de la rivière, mais ils n'arrivent pas à la traverser. La chair des singes roux est délicieuse. Et leur sang aussi est très bon. On peut en acheter parfois à des chasseurs qui descendent au bord de la rivière. Mais vous savez, quelle différence y a-t-il entre moi et un singe roux ? Bon, nous ne sommes pas si différents. Allez, le singe ne traverse jamais la rivière pour aller d'une rive à l'autre, et moi, je n'ai jamais pu la quitter, la rivière.
C'était à nouveau Nusrat Fatih Ali Khan, mais c'est tellement beau qu'on s'est laissé dépasser. On pensait que ça continuait plus longtemps, mais non, ça n'est pas le cas.
C'est magnifique, Nusrat Fatih Ali Khan. Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Nous sommes toujours dans Les Muses s'amusent à parler du livre de Mia Tan Tint sur la route de Mandalay, histoire de gens ordinaires en Birmanie, publié aux éditions Horizon de Genève. Et on va quand même faire un petit coup d'exotisme, mais vous allez voir que l'exotisme c'est bien joli, mais ça n'enlève pas du tout la pauvreté, la souffrance et la mort. Et là, ce texte, eh bien, c'est un texte sur, plus exactement, grâce, c'est une interview. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est une interview d'un conducteur d'éléphant. Mon père avait pris de l'opium quand il était jeune. Sous la domination britannique, tous les conducteurs d'éléphants en prenaient, et d'ailleurs, les éléphants aussi, ils étaient bourrés d'opium. Les conducteurs en donnaient aux bêtes, et eux-mêmes, bah, ils finissaient par s'y accoutumer. C'est qu'ils en avaient besoin pour surmonter leur fatigue et leur ennui de vivre au milieu de la jungle. Ils devaient travailler par tous les temps, jusqu'à ce que leur cœur n'en puisse plus. Et en pleine jungle, même avec de l'argent, il n'y avait rien à faire pour passer le temps, à part fumer de l'opium. Et puis à l'époque, les compagnies britanniques en distribuaient indistinctement pour les hommes et pour les bêtes. Bon, ok, maintenant c'est plus ça. Les éléphants, on les lâchait chaque soir, à la nuit tombée, pour qu'ils aillent paître dans la jungle. S'ils ne s'étaient pas trop éloignés pendant la nuit, pour les reprendre, mon père m'emmenait avec lui. Mais s'ils étaient partis à une douzaine de kilomètres, c'était trop loin pour un enfant. Les jeunes éléphants, vous savez, c'est comme les jeunes gens. Ils sont impulsifs et vaniteux. Mais si vous avez été élevé avec des éléphants, ils ne vous impressionnent pas, même s'ils sont parfois très violents. Ils ne vous inspirent pas plus de crainte que ce vieux jouet-là que vous voyez, ou la vache en panne de cocotier que vous aviez l'habitude, enfant, de traîner avec vous. Un jour, j'étais dans la forêt, sur la rive de la Chouéli, avec une équipe de capture d'éléphants sauvages. On opérait avec des fusils à tranquillisants. On suivait un troupeau qui remontait au nord vers Katha et Tigang. On arrivait à le suivre à la trace, mais sans jamais pouvoir le rejoindre. Parfois, on en perdait même la trace. À un endroit, le troupeau a bifurqué vers l'est, et on a dû faire un détour pour traverser les affluents de la Chouéli et pouvoir le suivre à nouveau le long de la rivière. Et c'est seulement quand finalement nous sommes rentrés au camp que j'ai appris que mon père était mort depuis 4 mois déjà. J'ai même pas pu me rendre à ses funérailles. Vous savez, la vie d'un O aussi, un O aussi c'est un conducteur d'éléphant, la vie d'un O aussi c'est épuisant et dangereux. On est debout avant l'aube, on mange à toute vitesse les restes de la veille, on part à la recherche de l'éléphant qu'on a lâché pour la nuit. Ils sont plus souvent une quinzaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres. Chacun doit retrouver le sien. Et il faut s'enfoncer dans l'épaisseur de la jungle. Quelquefois, il faut traverser des étendues d'herbes ou de canne à sucre sauvage plus hautes que les éléphants. Elles poussent entre 3 et 7 mètres et au sol. Il est impossible de voir quel animal sauvage on va rencontrer. On peut aussi bien se faire attaquer par un tigre que malmener par un ours. Alors il faut sans cesse être sur le qui-vive, garder les yeux mobiles, avoir du courage et des réserves d'énergie. Nous ne sommes armés que d'une lance et d'un long couteau. Aussi faut-il encore être leste et garder les sens en alerte comme un tigre. Quand nous partons à la recherche de nos éléphants, nous observons certaines règles. Parmi celles-là, il y a par exemple ne pas cracher ni uriner sur les traces de leur chaîne, car ces traces, ce sont la piste des éléphants. Si un O aussi voit des empreintes d'éléphants, il ne sait pas nécessairement si c'est le sien ou celui d'un autre. C'est peu à peu seulement qu'il apprend à identifier les empreintes de son éléphant, à connaître ses habitudes, à observer s'il rejette du côté gauche ou du côté droit les restes de branches qu'il a mâchouillées. Un éléphant qui jette les branches du côté droit ne les jettera jamais du côté gauche et vice-versa. Alors, en regardant les empreintes, la manière dont les branches ont été jetées, un homme aussi saura s'il est bien sur la piste de son éléphant. Et s'il trouve du crottin en chemin, il l'examinera. Si l'éléphant a mangé du bambou pendant la nuit, ça veut dire que le matin, la bête ne sera plus dans les bambous, mais plutôt dans les cannes à sucre sauvages. Et s'il y a des restes de feuilles de canne à sucre dans le trottin, il saura que l'éléphant, il est maintenant ailleurs. C'est comme ça qu'un O aussi retrouve son éléphant. Et quand l'O aussi sait s'il doit chercher son éléphant dans les bambous, dans les cannes à sucre, ben, il ne peut pas s'y précipiter. Il y a toujours des animaux, même s'ils restent invisibles. Et s'il les effraye, l'éléphant aussi sera alerté et il s'enfuira. Alors l'O aussi attend à la lisière d'un champ de cannes sauvages et il écoute les sons jusqu'à ce qu'il entende la cloche de son éléphant. Alors, il en connaît tellement le timbre qu'il sait tout de suite l'identifier. Mais même si l'éléphant est tout près, il ne peut pas courir après. Parce qu'un éléphant effrayé peut devenir mauvais. Alors, il se met d'abord à chanter, doucement, de manière à ce que l'éléphant reconnaisse sa voix. Puis ensuite, il essaye de l'amadouer. L'éléphant ne se décide pas nécessairement à venir immédiatement. Alors, lui aussi allume une cigarette et il s'accroupit un moment en susurrant « Viens, 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 sors donc de là !» Si l'éléphant consent à sortir des hautes herbes ou des taillis, lui aussi doit obtenir ensuite qu'il veuille bien s'agenouiller. Il y fait « Mec, mec !» Si l'éléphant refuse, lui aussi doit juger l'état de son humeur. Un éléphant peut retrouver un caractère sauvage et belliqueux s'il a rencontré un troupeau d'éléphants sauvages dans la jungle. S'il n'obéit pas à un ordre, il vaut mieux savoir s'il est ou non redevenu sauvage. On ne peut lui retirer ses entraves, le harnacher, le monter que s'il y consent. Une fois l'éléphant ramené au camp, lui aussi va enfin manger quelque chose et il fait ensuite boire son éléphant. Alors, vous pouvez imaginer ce que c'est le soir, hein, en plein cœur de la forêt, une fois le travail terminé. Nous n'avons nulle part où aller. Il n'y a pas de kérosène. La seule lumière que l'on ait la nuit tombée, c'est celle du foyer. Il reste que nous nous préoccupons beaucoup les uns des autres entre gens qui travaillent avec les éléphants. Personne n'a jamais été grossier envers la femme ou la famille d'un autre. Nous croyons que celui qui se comporterait sans égard pour les autres serait piétiné à mort par un éléphant. Un éléphant, dans la société, vous savez, hein, il est dans la frange du bas. Mais nous aimons nos éléphants. Nous avons grandi avec eux, et tout ce que nous voulons, c'est vivre et mourir avec eux. Ça fait maintenant 30 ans que je m'occupe d'éléphants. Et je vis avec eux depuis ma plus petite enfance. J'ai vu des éléphants avec des facultés incroyables. Et j'ai aussi vu des éléphants piétiner à mort, 40 ou 50, moi aussi. J'ai vu des troupeaux d'éléphants sauvages, et j'ai vu des éléphants souffrir. Je sais plus de choses sur les éléphants que sur les humains. Ce sont mes amis, c'est toute ma vie. Je veux que mon fils aussi travaille avec les éléphants, tel père, tel fils. Vous savez ce que l'on dit des parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants? On dit qu'ils veulent voir leurs enfants sur un éléphant avec un cortège de chevaux derrière. Eh bien, moi, je ferai tout ce qui est possible pour que mes enfants soient sur un éléphant. Mais sans les chevaux, hein, je n'aurai jamais les moyens de leur offrir un cortège de chevaux. Thank you.
Alors ça, c'était le groupe Karlema, un groupe palestinien qui chantait, qui interprétait Silk Road.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et nous aurons pendant l'été 3 émissions de suite, une visite du Panthéon à Paris, avec donc Jean-Manuel, moi-même, et Christiane. Nous sommes allés explorer le Panthéon, un lieu extrêmement riche, pas nécessairement en bonnes choses et en bonnes personnes toujours, mais malgré tout un lieu extrêmement intéressant. Et donc pour juillet, août et septembre, eh bien les Muses s'amusent vous emmènent au Panthéon. Et à la rentrée, on verra bien. Merci beaucoup. Bonne soirée sur Radio Libertaire.